Bonjour chers auditeurs, vous écoutez encore Transistor en ce 10 juin et c'est le 44e numéro d'En Spectateur, dernier numéro de la saison et chez notre partenaire aussi c'est la fin de l'année. Alors on ne perd pas de temps, c'est qu'on a deux spectacles à couvrir aujourd'hui nous madame. De la danse d'abord avec What About Jazz de la compagnie Prologue, puis ce sera du théâtre avec Donna Rosita, Bitch, mon accent est sponsorisé par Anseguida, on ne se moque pas, par la compagnie Damo et ça aussi j'espère que je prononce bien. Avec moi aujourd'hui deux chroniqueuses, une vétérante dans Spectateur. Souvenez-vous, sa première apparition c'était au numéro 23, il y a une éternité déjà, Mathilde.
Bonjour.
Et une chroniqueuse qu'un jour j'ai coincée à la sortie du théâtre, traquenardée, et qui n'est jamais vraiment repartie dans Spectateur, Maëlys.
Bonjour.
Alors on commence tout de suite avec What About Jazz, je disais, de la danse. Et ça n'arrive pas si souvent en théâtre cantor, n'est-ce pas Clément, qui ne s'était jamais remis du fait que Et on inventera d'autres danses n'est pas un spectacle de danse. Alors cette fois, c'était la compagnie Prologue, une compagnie amateur de Bron, on ne se moque pas, qui offre à ses danseuses une première expérience pré-professionnelle. Les premiers 2 et 3 juin derniers, ils nous ont dansé 3 chorégraphies, A Proposito del Tango, création de 2015, abstraite, où les danseuses évoluent dans des costumes noirs, Alice, une création de 2013, avec un fil d'intrigue très très simple, une petite danseuse inexpérimentée en blanc qui voit les autres danser par binôme ou par trinôme et qui finit par trouver sa compagne, une danseuse en noir. Et What About Jazz, une création de 2012 sur les états d'âme féminins, avec quelques éléments de décor qui font penser aux années 30, j'ai trouvé. Le temps d'un petit extrait de Feeling Good de Nina Simone, diffusé pendant le ballet, et nous revenons pour en discuter. And I'm feeling good. Alors, c'est de la danse, donc pas de chronique aujourd'hui, simple discussion. Déjà, j'ai une première question pour vous deux. Sur les 3 chorégraphies, laquelle est-ce que vous avez préférée, si tant est qu'il y en ait une que vous ayez préférée?
Moi, sans aucune hésitation, la seconde. J'ai trouvé vraiment, c'est là où je suis vraiment rentrée dans le spectacle. Et parce que la première, je me suis dit... Très bien, je vais avoir du mal à y trouver forcément une grande signification, ou je vais avoir du mal à réfléchir, à me dire c'est ça que ça m'évoque, ça fait référence à ça.
Parce que c'était très abstrait.
Très très abstrait. La première, je me suis juste dit, bah tu sais quoi, c'est beau. Laisse-toi aller passivement à la chose. Deuxième, et j'aime bien ça, mon cerveau a commencé à fourmiller d'idées, à interpréter beaucoup de choses, et je me suis d'ailleurs dit que ça allait donner des interprétations très tirées par les cheveux pour un spectateur.
Donc Alice pour toi Mathilde, et toi Maëlys?
Moi pareil, Alice, moi j'ai vu Alice au Pays des Merveilles, mais après c'est peut-être moi qui...
Oh là,
non mais
oh là,
Alice,
attention.
Non mais Alice, voilà,
la
elle
Garden
rencontre
Party,
des gens, genre il y a des petits, je sais pas, des petits farfadets ou des...
Tu fais de la concurrence dans le truc tiré par les cheveux.
Bon, non mais je pense que je suis pas la seule, enfin...
Bon, donc en fait, vous avez préféré plutôt quand il y avait un fil directeur,
voilà,
et une intrigue,
ça.
Même
une intrigue.
Très très simple,
ouais. Et
plutôt
puis des...
que quand c'était purement abstrait.
Oui, et puis aussi le côté binôme, trinôme, et pas le côté genre ballet, en fait, moi, qui m'a plus dérangée.
Alors
et
pourquoi ça t'a dérangée?
Ça m'a dérangée surtout sur la première, ça m'a énormément dérangée parce que c'était du la musique c'était du tango. Et moi j'ai vu du jazz ou du classique sur la musique tango. Et je trouve que j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas le côté sensuel du tango, le côté qui fait tout le charme du tango. Et là on était vraiment, c'était simplement la musique qui changeait.
Moi j'ai, au contraire, c'est quelque chose qui m'a pas particulièrement dérangée, le fait qu'on prenne parfois des musiques à contre-emploi. C'était assez, moi en tout cas ça m'a intéressée et j'ai trouvé que c'était la plupart du temps bien réalisé. Après je te rejoins sur le fait que peut-être... En tout cas, moi, si les scènes de ballet m'ont peut-être moins emportée, c'est que c'est peut-être sur ça qu'on voyait qu'il y avait, comment dire, des petits problèmes de synchronisation qui, ouais, moi, m'ont pas posé un problème énorme. Mais effectivement, c'est peut-être beaucoup plus joli quand on avait ces petits duos, trios.
C'était plus inventif, je trouvais.
C'était extrêmement inventif et je trouve que, pour le coup, les duos étaient très bien
réalisés.
C'est-à-dire que, par exemple, ces deux ballerines en rose, là, elles étaient assez, pour le coup, très coordonnées. Je pense que ça faisait partie peut-être des danseuses qui avaient le plus de maîtrise technique. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas. Encore une fois, avec mes maigres connaissances en danse. Hein.
Par contre, Mathilde, tu parlais d'éventuellement de petits problèmes de synchronisation qui a eu surtout en particulier sur le premier spectacle avec son aspect ballet. C'est une compagnie qui se revendique comme amateur et comme pré-professionnelle, qui fait preuve quand même d'un certain classicisme, je trouve, au sens où c'est curieux que le spectacle qui soit le plus abstrait, qui fasse le plus penser à du ballet, ce soit la création la plus récente de cette compagnie, parce que ça date de 2015 par rapport aux autres qui ont été créés en 2012 et 2013, les deux autres chorégraphies. Est-ce que pour un spectacle amateur, vous êtes satisfaite?
Alors, moi, plusieurs choses. En fait, moi, c'est le côté... ce qui me dérange un petit peu plus, c'est que je ne m'attendais pas forcément à avoir du classique ou du modern jazz en tant que tel, en fait. Et en fait, moi, je trouve que le problème avec ce genre de type de danse, c'est, là, voilà, c'est qu'en fait, on a des pas qui sont classiques et on brode à partir de ces pas-là. Et je trouvais, ouais, moi, je n'ai pas été assez emportée par le truc que j'avais... plus l'impression de si c'est une représentation de fin d'année ou voilà, sans pour autant voir la, enfin admirer la maîtrise technique, sans pour autant voir le fil, le petit truc qui fait que ça y est, on est dedans,
oui,
quoi.
Moi, l'impression que ça m'a donné un peu, c'est de voir le spectacle de fin d'année d'une école un peu, et je dis vraiment ça sans mépris parce que j'aimais beaucoup regarder cette série, oui, quand j'étais plus jeune, je l'avoue sans honte. Ça m'a fait penser à quand on voit les
stress
de danse dans Nos Stress. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Mathilde?
Un petit peu, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai aimé. Non, moi j'ai vraiment senti encore une fois, et c'est très drôle parce que je suis un peu naïve et j'avais peut-être pas lu le programme, j'avais pas compris qu'il s'agissait de...
Non, on ne nous a pas donné de programme et voilà. C'est une honte, c'est surtout ça.
J'avais pas compris qu'il s'agissait de trois spectacles distincts et ça me rassure même de l'apprendre parce que moi j'avais vraiment pas senti la cohérence entre les trois tableau entre guillemets, ouais. Moi j'avais l'impression
Ton
que c'était trois tableaux.
Ton esprit de cagneuse n'avait pas réussi à relier les trois parties.
Exactement.
Synthèse, antithèse.
Elles ne sont pas liées. Et voilà, parce que voilà, pour moi cette critique elle tient pas forcément sur la deuxième partie qui pour moi était très créative, très inventive et qui arrivait très bien à gérer le fait que toutes les danseuses n'avaient pas le même niveau, qu'elles avaient pas forcément toujours une coordination parfaite, une synchronisation parfaite. Et effectivement, c'était peut-être un peu dérangeant au tout début quand voilà exactement on essayait de nous faire du classique sans peut-être la maîtrise technique qu'il y a derrière. Je me sens très bête à dire ça alors qu'elles ont... C'était évidemment de bonnes danseuses et j'ai pas grand-chose à dire, moi, pauvre profane, mais... moi, ça m'a pas du tout dérangé sur le deuxième. Et je vous avoue que le troisième m'a pas énormément marqué.
D'accord, tout simplement.
J'ai vraiment été bouleversée par le second et...
Ouais. Moi, je pense que j'ai préféré le second parce que c'était celui qui faisait plus danse contemporaine, en fait. Et j'ai trouvé qu'il allait le plus loin, en fait, dans l'improvisation, dans la création, entre guillemets. Et ce qui m'a dérangé avec les autres danses, en fait, c'est qu'on voyait plus la chorégraphie pour la chorégraphie, on voyait pas les danseuses, en fait. Enfin, moi, je voyais plutôt on exécutait une chorégraphie et on voyait pas les danseuses évoluer, en fait.
Effectivement, elles avaient pas forcément de personnage.
Ouais.
Bon, après, voilà, moi j'ai apprécié, mais t'as raison, je le regardais peut-être un petit peu comme j'aurais regardé Undo Stress en me disant waouh, c'est classe, j'aimerais faire ça.
D'accord. Alors, tu disais que tu te souvenais pas de grand chose du troisième spectacle.
Je me souviens des imperméables.
Voilà, te souviens-toi des imperméables. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait des éléments de décor aussi? Oui.
Oui.
Alors, est-ce que ces éléments de décor
étaient pas présents dès le second dès le second spectacle?
Il y avait effectivement un banc et deux cubes, mais après ça se multiplie les accessoires avec la troisième chorégraphie parce qu'on a quand même un paravent, une petite table, un guéridon, etc. Accessoires avec lesquels elles ont quand même eu parfois quelques petits problèmes.
Moi j'ai eu un petit souci, vous êtes prêts pour la remarque bien graveleuse? J'ai eu un petit souci avec les imperméables.
Ça faisait exhibitionniste.
Non, au contraire, je trouve que... Excusez-moi, mais dans la danse, il y a peut-être aussi une esthétique du corps. Enfin, moi, j'aime voir le corps des danseuses. J'ai pas compris ce truc de danser en manteau. Je suis la seule à avoir pensé ça. Que...
Toi, Maëlys, est-ce que ça te gêne les danseuses qui
non,
qui cachent leur corps?
Pas leur boule, quoi.
Enfin... moi, ça faisait très années 30. Moi, je voyais genre, le vieux film américain avec Humphrey Bogart,
c'est ça,
genre, le truc,
voilà.
Tu vois. Et du coup, non, ça m'a pas dérangé. Même au contraire, ça peut être un jeu sur le cacher, montrer, enfin, justement, danser le classique. Bon, après, c'était bizarre, les ballerines et l'imperméable.
Oui, moi, esthétiquement, j'ai pas trouvé ça. Ça m'a fait penser à Singing in the Rain, tu vois. Enfin,
voilà.
Des trucs comme ça.
Pam,
pam. Ouais.
Parce qu'on aurait besoin qu'il pleuve en ce moment.
Ouais, c'est ça.
Moi, tous ces accessoires, pour le coup, bon, je trouvais ça peut-être un peu superflu, sachant que j'avais été charmée avec pas grand-chose sur le second spectacle. Juste ce banc, voilà, ça, c'est des choses qui m'avaient suffi, en fait.
Et ouais, puis je trouve que là, elles avaient chacune leurs accessoires, alors que le banc, elles en faisaient toutes quelque chose de différent.
Oui.
Je trouvais ça hyper intéressant. Là, ça faisait un peu, comment dire, illustré. Enfin,
oui,
voilà,
la danseuse auparavant,
voilà,
la danseuse au guéridon.
Et puis, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé ça moins inventif aussi qu'avec le banc. Par exemple, la danseuse qui passe juste la jambe au-dessus de la table, moi, ça m'a fait un peu regarder comme je suis souple. Je sais passer ma jambe au-dessus de la table.
Jalousie.
Non, mais c'est pas de la jalousie, mais j'aurais voulu avoir un petit truc en plus qui fait que je me rentre dans une histoire et je m'accroche.
Voilà,
quoi.
Et pas juste. Alors, je vais effectuer un quadruple lutz et ensuite,
c'est
je vais
ça.
Passer ma jambe au-dessus de la table.
Et tout ça avec un magnifique sourire. sourire, un maquillage impeccable et.
Ah, ça c'est vrai qu'elles étaient très souriantes, ça fait quand même. Pas mais forcément coordonnées, mais.
Ça, je pense que c'est le côté classique aussi, c'était hyper raide aussi dans le buste. Mais c'est vraiment, ça c'est des restes du classique. Enfin, c'est des restes entre guillemets. Enfin, c'est des habitudes du classique en fait. Et du coup, c'est vrai que moi, on leur dit de sourire, elles ont le chignon parfaitement fait, etc. Et enfin, j'aurais aimé un peu plus d'interprétation en fait.
D'accord. Dans le... Alors, dernier élément du décor dont je voudrais parler avec vous. La lumière, parce que en particulier sur le premier spectacle où il y a zéro décor, la lumière et le fond coloré est quand même très important. Alors un fond qui est quand même assez violent, avec soit du violet fluo, soit du jaune, des couleurs très vives comme ça, et ça constituait l'unique décor. Parfois, je trouvais qu'il y avait un peu plus de subtilité dans la lumière et ça donnait des très jolis passages, par exemple avec des projecteurs qui étaient placés dans les coulisses et qui permettaient de les éclairer en contre-jour, etc.
Et surtout avec des effets d'ombre assez beaux, je trouvais qu'ils allongeaient énormément le corps de la danseuse sur la scène. C'est quelque chose à laquelle j'étais assez sensible. J'ai trouvé ça assez beau parce que justement, en particulier sur ce premier spectacle, j'étais vraiment dans l'idée, tu sais quoi, t'es plus face à une pièce de théâtre, mais tout la partie interprétative en off et admire, enfin regarde quelque chose de beau visuellement, vraiment.
Alors voilà, Maëlys, ma question, est-ce que c'est dommage de laisser aussi souvent les scènes en lumière très crue comme ça,
ou
est-ce qu'on
n'aurait
pas pu jouer un peu plus avec les lumières?
Je trouve que celui qui jouait le plus avec les lumières, c'était le deuxième. Après le troisième et le premier, je jouais peut-être pas assez avec les lumières, j'ai trouvé. Ce que j'ai préféré, c'est quand il y avait des espèces de halos de lumière, il n'y avait qu'une seule partie de la scène qui était éclairée, quand il y avait des danseuses qui évoluaient en petits groupes, etc. Et je trouvais que ça donnait... Enfin, l'éclairage était magnifique. Enfin, visuellement, c'était très, très beau. Mmh. Tu vas peut-être aborder la question des costumes après. Mais moi, je trouvais que c'était bien... Enfin, dans le deuxième, en fait, j'ai beaucoup aimé les costumes, la variété des costumes. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier et dans le troisième.
Oui, tout le monde en imperméable, c'est quand même un grand drame.
Bah ouais, mais du coup, tu perds un peu t'as plus de personnage, en fait.
C'est juste... D'accord, alors, donc, puisque Maëlys voulait parler des costumes, un avis sur la question, Mathilde ?
Oui, moi, c'est effectivement dans ce deuxième spectacle que j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, après, on pourra toujours me dire qu'il y avait un effet un peu de facilité à identifier le personnage par ses effets de couleur, tout simplement, mais
oui,
moi,
voilà,
c'est quelque chose qui m'a...
La petite danseuse inexpérimentée en blanc, et les autres, les binômes, les trinômes... Oui. En couleur pour faire comprendre que ce sont des binômes, etc.
Oui, moi en tout cas, je trouvais que ça a marché pour le coup. On n'a pas vraiment beaucoup d'autres éléments pour identifier les choses. Et j'ai pas vraiment de problème avec le fait qu'on m'ait prise par la main comme ça en me disant voilà, là t'as les deux ballerines en rose flashy, regarde comme elles sont affirmées. Parce que moi je voyais ça, elles avaient des couleurs. Par exemple, voilà, ces deux ballerines, elles avaient une couleur très forte. Associé vraiment au féminin, très, très affirmé. Et elles avaient cette attitude qui allait avec, et c'était très intéressant. Et t'avais forcément cette petite danseuse qui en fait, j'avais l'impression de voir une sorte de petit roman d'apprentissage en danse. C'était assez joli, je trouvais, cette façon dont elle allait avec ses premières danseuses, commencer à essayer de danser avec elles, et elles avaient l'air vraiment de la prendre sous leur aile et de l'incorporer à leur danse. Après, je me souviens plus de la couleur de l'autre duo où elles avaient l'air beaucoup plus hostiles. En tout cas, c'était peut-être, certains me diront un peu facile, mais moi je trouvais ça beau là, finalement, qu'elle trouve son binôme avec cette autre danseuse qui avait le même costume qu'elle, mais en noir, cette complémentarité, ça m'a fait penser à Black Swan. Je me suis posé beaucoup de questions face à ça.
Beaucoup de questions, oui, bien sûr, Mathilde, bien sûr.
Très profond, très profond.
Mais sur la couleur des costumes, en même temps, en danse, on peut pas faire de psychologie, quoi. Enfin, elles vont pas parler, etc. Donc, on va au plus simple et je pense que, enfin, voilà, c'est ce qu'il faut faire.
Oui, en même temps, je pense qu'en danse, ça se conçoit et c'était assez clair visuellement, je pense qu'après.
Et il y avait aussi le côté, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le type des musiques pour le deuxième. C'est-à-dire que celles qui étaient en jaune, on dansait sur une musique plutôt africaniste, avec des rythmes très marqués. Pas si on dit africanisante, mais. Moi qui me rappelais des musiques africaines.
Un bon ton africanisant.
Voilà. Africanisant. Et par contre, celles qui étaient en bleu, avec des grandes jupes, on dansait sur des musiques plutôt orientales. Enfin, moi, oui. Et ça, je trouvais ça intéressant, en fait, ce contraste entre les musiques. Ça faisait vraiment des univers différents et c'était assez sympa.
Alors, une petite question de conclusion. Si je vous emmène retourner voir les danseuses, les très souriantes danseuses de la compagnie Prologue, est-ce que vous y retournez avec moi, Maëlys ?
Je pense que oui, dans l'ensemble, parce que il y a des petits, il y aura peut-être des petites imperfections qui auront disparu, voilà, et pas, le deuxième surtout, j'ai envie de revoir le deuxième.
J'aime bien ce que tu dis, je retourne les voir avec l'idée qu'elles se seront améliorées, et que elles sont aussi en apprentissage et qu'il y aura un progrès, j'aime bien l'idée. Et toi, Mathilde ?
Même si c'était parfait, ça se revendiquait pas comme tel, c'était pas prétentieux, j'ai passé un très bon moment, donc oui.
Merci à toutes les deux. We'll be right back. lancée dans le domaine de la danse avec une pièce qui mêlait au texte quelques mouvements chorégraphiés quand même. C'était Donna Rosita, jouée les 4 et 6 juin dans les jardins de l'ENS. Et j'insiste, c'est important. La pièce est adaptée de Federico Garcia Lorca. C'est l'histoire de Rosita qui est abandonnée par son amant, qui l'attend, qui l'aime encore, qui se coupe du monde, qui n'est troublée que par les visites d'un enfant, son petit cousin. Et Rosita comprend un jour qu'elle est passée à côté de sa vie et restée vieille fille, et elle meurt. Enfin, je crois. Je sais pas, j'ai pas lu Garcia Lorca, moi. On écoute tout de suite ce qu'en a pensé Maëlys.
Merci Marie. Quelques roses, un tas de lettres jaunies qui traînent sur une petite table en fer forgé, une jeune fille en robe et châle rouge, un air de guitare, et nous voilà dans un patio à Grenade au début du siècle dernier. Cette jeune fille, c'est Doña Rosita, la cousine de Federico Garcia Lorca, l'autre protagoniste de la pièce, dépeint en jeune garçon à la fois ingénu et espiègle, visiblement épris de sa cousine plus âgée. Mais bien sûr, celle-ci en aime un autre, son autre cousin. Avant que ce dernier ne parte travailler loin, ils se sont jurés un amour éternel, le fiancé ayant promis de l'épouser à son retour. Mais comme le suggère le titre de la pièce originale de Garcia Lorca, Doña Rosita, la célibataire, la soltera, ce mariage n'aura jamais lieu. Les lettres d'abord régulières se feront de plus en plus rares, au désespoir de la jeune fille, éplorée, prostrée dans sa chambre. Enfin, le fiancé lui promet de l'épouser par procuration, procuration qui n'arrive cependant jamais. On suit l'héroïne dans ses espérances folles, ses déceptions, sa torpeur, le désespoir qui la ronge, les illusions auxquelles elle s'accroche coûte que coûte pour ne pas sombrer. Et ce, jusqu'à l'annonce du mariage de celui qu'elle aime avec une autre, plusieurs années après son départ, mariage qui signe la mort symbolique de l'héroïne. Elle vieillira seule, cloîtrée dans sa chambre, folle d'avoir espéré et honteuse d'avoir été délaissée comme une rose qui a été belle en vain et qui finit par se faner. Son seul interlocuteur sera Federico qui vient la voir, l'écoute et la console, comme si lui seul était capable de comprendre la folie et le désespoir infini de sa cousine. Entre deux éclats de rire et deux caprices d'enfant, des fulgurances poétiques dans sa bouche de garçon de 12 ans, laisse entrevoir l'immense poète en devenir. Lui seul semble capable de comprendre le langage des fleurs, le sous-titre de la pièce en espagnol, les espérances de la jeune Rosita en fleurs, la Rosita vieillissante qui sont peu à peu dans la folie. Lui seul est capable de saisir toute la charge poétique de l'histoire de ce personnage, personnage qu'il berce d'ailleurs dans ses bras dans une des scènes finales de la pièce. Le spectateur comprend que ce n'est plus la cousine du poète qu'il regarde, mais la créature poétique et imaginaire de Garcia Lorca, qui entra par la suite toute l'œuvre du poète andalou. Bon, comme cela peut s'entendre dans la représentation, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette pièce. Je l'ai trouvée évocatrice, audacieuse et poétique, exigeante et nourrie de références littéraires, sans être prétentieuse pour un sou. Le lieu de la représentation était vraiment magique, j'ai trouvé. Vive le plein air et les jardins de l'ENS. Le public était entouré d'un écrin de verdure, un petit jardin, dans le petit jardin aux roses du côté de l'Iffé, assis sur des bottes de paille, avec les mouches, les coccinelles et les petits oiseaux.
Et les fourmis, n'est-ce pas Clément ?
Et les fourmis. Et le son de la guitare qui s'élevait de nulle part. C'était simple, esthétique et incroyablement suggestif. Je ne sais pas vous, mais moi, ça y est, j'étais en Espagne. Une très belle expérience qui mériterait d'être réitérée, je trouve. Dommage qu'en scène ne fasse pas ça plus souvent, vu le potentiel du jardin. Les éléments du décor étaient parfaitement intégrés à la scénographie, les paniers accrochés aux branches, les roses que les personnages caressent ou cueillent. Bref, le jardin mettait en valeur la pièce et la pièce mettait en valeur le jardin. Le jeu des deux actrices m'a semblé plutôt juste. Leur tâche n'était pas facile entre une œuvre, avec une œuvre de cette trempe en fait, à mi-chemin entre le théâtre et la poésie, entre le jeu et la déclamation, si je peux dire. Et je trouve qu'elles s'en sont plutôt bien tirées. L'accent espagnol de l'interprète de Doña Rosita ajoutait encore un côté authentique, made in Andalusia, qui n'était pas pour rien dans le charme de cette pièce. Et du coup, mon principal regret, en fait, c'est de ne pas avoir entendu un peu plus parler espagnol dans la pièce. C'est difficile de parler de la poésie d'un auteur dont on ne partage pas la langue, je trouve. Et là, je trouve que ça aurait pu être pertinent de déclamer une tirade de la pièce ou un poème en espagnol, quitte à le traduire ensuite en français. On aurait pu tout à fait profiter de la présence d'une actrice hispanophone qui aurait fait ça à merveille. Dans cette pièce-là, qui se veut également un hommage à Federico Garcia Lorca, pour moi, ça semblait un peu incontournable. Mon deuxième bémol a concerné les conditions matérielles et le confort des spectateurs. Je m'explique, il a fait très 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 chaud cette semaine, tout comme en Espagne, vous me direz. Et j'étais à la représentation de jeudi en début d'après-midi et c'était un peu l'enfer. Toutes les toiles du chapiteau n'avaient pas été tendues et tout le monde n'avait pas eu le droit à son coin d'ombre. Je me suis retrouvée en plein cagnard pendant plus d'une heure, j'étais en train de me liquéfier sur mon banc et c'était à la limite du supportable. Voilà.
Disclaimer.
Voilà, voilà.
Merci Maëlys.
Malheureusement, j'ai parfois eu des moments d'absence du coup à cause de ça pendant le poursuivre un peu. C'était un peu compliqué de suivre une pièce de ce standing-là quand on a chaud. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage qu'une partie des spectateurs n'ait pas pu suivre le spectacle dans de bonnes conditions. Pour moi, c'est un petit peu péché niveau technique le jour où j'y étais. Donc, je crois que c'était réparé par la suite, mais vous m'en direz des nouvelles.
À mon avis, Clément, qui est allé avec moi samedi, ne partage pas ton avis. Ça
okay.
n'a pas été réparé.
Bon, le bon côté de la chose, c'est que je serais tout à fait partante pour assister de nouveau à Doña Rosita, mais à l'ombre avec une petite brise, un éventail et des lunettes de soleil. Pour moi, c'est vraiment une pièce qui donne envie de se plonger ou de se replonger dans l'œuvre de Garcia Lorca, qui fait découvrir de la poésie étrangère qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire en France. Et on aurait pu s'attendre à une pièce de lettreux un peu ronflante et élitiste, ça ne l'est pas du tout, j'ai trouvé ça très accessible. Avoir programmé cette pièce dans le cadre des rendez-vous au jardin à destination du grand public était vraiment une très très belle initiative, un joli trait d'union entre nature et culture, j'ai trouvé. Et on aurait pu difficilement pu rêver mieux de ça ici à l'ENS.
Merci Maëlys. Alors avant qu'on commence à discuter, j'ai une première question pour vous deux. Est-ce que vous avez déjà lu du Garcia Lorca ?
Alors je ne connaissais pas cette pièce, j'ai déjà assisté, il me semble, à des pièces de Garcia Lorca en français. Et c'est pas un auteur que je connais beaucoup, à titre personnel, je pense que le fait que je sois pas hispanisante joue beaucoup.
Oui, il y a un déterminisme.
Et voilà, de germaniste.
Voilà. Et toi Maëlys ?
Moi j'ai fait de l'espagnol jusqu'en prépa, où c'était mon option, mais après j'en ai lu un peu au lycée. Par contre c'est toute première poésie en fait, je pense que c'est ça qui m'a... Et c'est vraiment la poésie du jeune, très jeune Federico Garcia Lorca, et Doña Rosita est effectivement un personnage de la femme andalouse qui revient, etc., qui est un peu fantomatique, et c'est vrai que ça m'a beaucoup rappelé ça, même au niveau des images poétiques, en fait, je trouve.
D'accord.
Dans la pièce.
Si je pose cette question, c'est parce que moi, par exemple, je ne connais rien, ouais. Alors rien du tout de Garcia Lorca, et c'est vrai que du coup, vous allez me dire si vous partagez ça aussi, je trouve que ça s'en ressent un peu sur la lisibilité de l'intrigue. Il y a les gens qui connaissent ouais. un peu et à qui ça évoque des choses et qui rentrent, à mon avis, beaucoup plus vite dans la pièce. Et ceux comme moi, qui sont un petit peu largués. Et alors, ça va, on finit par comprendre parce que c'est quand même une intrigue archi-classique.
Ouais.
La femme amoureuse, délaissée, abandonnée. Bon, d'accord, très bien. Mais est-ce que ça posait des problèmes de lisibilité d'intrigue, à votre avis ?
Je te rejoins pas. Parce que je trouve que pour le coup, l'intrigue était simple, facilement compréhensible, et il y avait dans l'univers évoqué quelque chose de... Et c'est pas péjoratif quand je dis, mais on était un peu dans une sorte d'image stéréotypée de l'Espagne.
Ouais.
C'est pas du tout péjoratif quand je dis. Mais donc du coup, pour moi, non, il y avait aucun problème de lisibilité, et je trouve qu'on rentrait très vite dans cet univers-là, même si c'est pas un univers, encore une fois, que je connais bien ou dont je me sens proche, tout simplement parce que voilà, j'ai peu été en contact avec l'Andalousie, je pense.
Moi, je savais d'avance en fait, que le personnage de le petit garçon, c'était Federico.
Oui, je sais pas,
ils l'ont pas dit
ça.
Ils l'ont pas dit, c'est pas dit dans l'intrigue.
Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas compris, je l'ai compris en lisant le programme après.
J'ai lu le programme avant. Ouais. Je t'accorde ça, Marie, j'ai lu le programme avant, ce qui est rarissime.
Incroyable, applaudissements.
Et voilà, merci. Donc, je suis pas allée là. Effectivement, j'aurais mis un moment avant de comprendre cette histoire de petit garçon. Oui.
Que si quand on ne sait pas, c'est plus compliqué à comprendre.
Après, c'est ton devoir, Marie, en tant que spectatrice,
de lire le programme.
Non. D'abord, une pièce est censée se suffire à elle-même. Merde. Voilà. Je voudrais qu'on parle des deux actrices, puisque officiellement, il y a trois personnages, mais bon, le cousin, le cousin dont Rosita est amoureuse, on le voit une fois, il
l'a fait tourner
trois fois et il repart. Bon.
La fierté qu'il avait au moment où il est venu se faire applaudir avec les autres acteurs, vraiment.
Alors donc de lui, nous ne dirons que deux
mots.
Mais
c'est un personnage important.
Oui,
il est pas là, mais il est important.
Il est important par son
absence.
L'intrigue
tourne autour de lui.
Il brille par son absence. Donc du coup, on va plutôt parler des présentes. Qu'est-ce que vous avez pensé d'elle ? Alors voilà, la foi Rosita et son accent espagnol un peu chantant, tu en parlais, Maëlys. Et l'actrice qui jouait le petit cousin, donc Garcia Lorca jeune, et son côté très androgyne, avec ses cheveux courts, sa petite bouille enfantine.
Globalement, dans l'apparence du personnage du petit garçon, exactement, tu l'as dit, cet aspect androgyne, pour moi, rappelle bien l'enfance, évoque bien l'enfance. On voyait un petit enfant dans sa gestuelle, il y avait énormément de choses dans ses expressions faciales. J'ai vraiment apprécié son jeu d'acteur, enfin son jeu d'actrice pour le coup. Il y avait quelque chose peut-être d'un peu forcé dans la voix enfantine, peut-être. Quand à la fin du spectacle, l'actrice nous a demandé de contribuer avec une petite pièce, fait d'encore une fois reprendre cette voix un peu enfantine, m'a paru un peu lourd.
Je crois que c'était voulu par la metteuse en scène.
Voilà, c'était un petit peu lourd, mais bon, globalement, j'ai bien aimé son jeu. L'actrice qui a joué Rosita, vraiment, on peut pas dire le contraire, je pense, elle était vraiment brillante dans ce rôle. Mélisse.
Moi, enfin, ça se voyait que c'était des amatrices, enfin, qui avaient une petite expérience de théâtre, etc. Mais ça se voulait pas. C'était, enfin, ça faisait avec. Je pense que c'est plus facile de jouer des choses drôles, etc., que de jouer des choses un peu sérieuses et s'en aller comme ça aussi poétique. C'est pas. Enfin voilà, moi je trouve qu'elles s'en sont quand même bien tirées.
Oui, oui.
D'accord. Alors, tu parlais de cet aspect amateur. Il y a quelqu'un dans cette pièce, Clément, à la régie, pour ne pas le citer, qui a trouvé que la pièce avait quand même un aspect très 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 amateur. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'aspect très 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 amateur? Et si oui, est-ce que vous trouvez que c'est gênant? Mathilde, je sens que tu as envie de dire des choses.
Non, alors je rejoins Clément sur énormément de choses. Je tiens à préciser que j'ai assisté à la représentation à ses côtés, donc...
Et nous aurons tout le temps d'en discuter.
Voilà, on s'est rejoint sur énormément de critiques sur la pièce. Globalement, non. C'est pas quelque chose sur lequel je le rejoins. Au niveau du jeu d'acteur, je vois pas trop comment ça aurait pu être mieux. Non, c'est pas quelque chose à laquelle j'étais sensible. J'ai beaucoup de critiques à émettre sur cette pièce. J'attends qu'on me laisse l'occasion de le faire.
Ça va venir.
Ça va venir, oui, j'ai hâte. Mais c'est pas sur le jeu d'acteur ni sur cet aspect amateur qui, globalement, ne me dérange jamais de toute façon.
Mélisse ?
Moi, je trouvais ça... Enfin, ça m'a pas dérangé et puis je vois pas pourquoi est-ce que les amateurs n'auraient-ils pas le droit de faire du théâtre?
Exactement,
en fait, ouais. C'est le côté elles sont amusées, je pense.
Moi, j'aime beaucoup le côté on va bricoler une pièce avec deux trois petits costumes, rien, ouais, trois fois rien, un texte
et un joli rosier soigneusement sélectionné au milieu du jardin.
Exactement,
j'ai aucun problème. Il y a demeure en fait ce rosier là. Oui.
Voilà, on a découvert des trésors insoupçonnés de ce jardin, c'est quand même merveilleux. Alors, Maëlys, tu évoquais dans ta chronique les conditions dans lesquelles on a vu la pièce.
La chaleur.
Et je sens que on va aborder un gros point quand même. Okay, on nous a mis dans un petit coin du jardin. Bon, déjà, c'était pas la plaine de l'ENS, ça va, c'était quand même
juste
au milieu des arbres quand même. Et on nous avait dressé une petite tente. Mais bon, la tente ne permettait pas qu'il y ait de l'ombre sur tous les bancs, par exemple. Et donc voilà, il y avait la chaleur, parce qu'il faut s'y attendre. Nous sommes au mois de juin à Lyon, c'est terrible. C'est,
et moi, je savais, entre parenthèses, je ne savais pas qu'il faisait aussi chaud à Lyon au mois de juin.
Tu découvres. Bienvenue à Lyon, Mélisse, bienvenue. Alors donc, la chaleur, l'horaire, puisque la pièce était jouée l'après-midi, soit à 14h, soit à 16h, selon les séances auxquelles on allait. Mathilde, je sens que tu as envie de t'exprimer sur la chaleur.
J'ai eu l'immense chance d'assister à cette pièce à 14h, un jour où il faisait plus de 30 degrés. Alors là, je tiens à dire tout de suite que c'est pas quelque chose de périphérique du tout pour moi, tout ça, parce que t'avais l'air de dire que c'était une super pièce, c'est un peu dommage les conditions. Pourquoi est-ce que c'est pas périphérique du tout pour moi, la manière dont ça a été fait? C'est que c'est du théâtre, et j'aime les pièces qui prennent en compte le fait qu'ils font du théâtre. Pour moi, il aurait fallu que quelqu'un soit là avec sa petite caméra, nous filme cette scène parce que le décor était très beau, le jeu d'acteur était très bon, il y avait vraiment plein de choses, vraiment, le décor était effectivement magnifique, faudra revenir sur cette petite guitare là qui ponctuait tout et qui était très belle, mais il n'y avait aucune raison qu'on soit là, il y avait absolument aucune raison qu'on soit là, on n'était pas pris en compte en tant que public. C'était quelque chose que je détestais profondément, qu'on soit même pas pris en compte, c'est-à-dire on prenait pas en compte le fait que clairement c'est une pièce d'une heure, ça devrait, chaque minute devrait pas avoir l'air d'en durer 4 ou 5. Clairement, je me faisais grimper dessus par plein de fourmis.
J'étais... Grimper dessus, oulalalala.
Voilà.
T'étais sur les bottes de paille?
Non, j'étais pas sur une botte de paille. Mais
non, même sur les bancs civilisés, madame, ça peut arriver de se faire grimper dessus par les fourmis.
J'avais énormément de fourmis sur moi, Clément aussi. Il y avait vraiment... Moi, je n'étais pas à l'ombre, clairement. Je sais pas exactement qui peut supporter de passer une heure en plein soleil à 14h, en plein mois de juin. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas possible pour moi. J'étais vraiment pas bien. Pas bien installée.
J'étais au bord de l'insolation aussi, je suis rentrée, j'ai dormi.
J'étais très très mal, effectivement. Donc moi, je trouve clairement, je pourrais préciser quand même que je suis absolument pas contre les pièces dans le jardin. L'année dernière, il y a eu cette pièce, Les Bacchantes, qui avait une partie de sa représentation qui se jouait dans le jardin.
Et c'était au mois de janvier.
Et ça se jouait dans le jardin à 21h, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit, d'ailleurs, c'était au mois de janvier, je m'étais dit, qu'est-ce que ça doit être beau ça l'été, parce que moi, j'adore les nuits d'été comme ça. S'il y avait eu ce parti pris de le faire le soir,
ouais,
mais ne serait-ce qu'à 19h, hein, vraiment. Mais ça aurait été très beau, ça, en pleine nuit, avec, je sais pas, des petits lampions. Vous pensez pas que ça aurait été quelque chose de très agréable? Mais après, il n'y a pas eu pour moi que le choix de le faire en pleine chaleur. Il y avait aussi la disposition.
Oui, alors ça, on va en parler. La disposition des acteurs. On avait quand même des bancs. Nous étions assis, estimons-nous heureux. Il y a quand même énormément de la pièce qui se déroule au sol.
Ouais.
Et quand on est au premier rang, bien sûr qu'on est très bien. Quand on est au deuxième, ça passe encore. J'étais au deuxième. Et après, troisième, quatrième rang. Mathilde, témoignage en direct du quatrième banc au soleil.
Je n'ai pas vu une grosse ouais. partie des choses qui se sont faites. Mmh. En plus, c'était une pièce, tu l'as dit, Maëlys, et c'est quelque chose que j'aurais salué en temps normal, énormément basée sur la gestuelle, mmh. avec des petits mouvements qui pourraient être qualifiés de danse presque, gestuelle intéressante. Quelle idée absolument stupide que de faire des gestes au sol alors qu'on n'est pas du tout dans une configuration de théâtre mmh. où les gens des derniers rangs peuvent voir la chose parce qu'ils sont surplombants. Moi, je n'ai pas vu une grande partie des choses. Et je tiens à préciser aussi, alors peut-être que c'est mes grands problèmes d'audition, je n'ai pas entendu parfois.
Mais j'ai entendu, tout entendu. Moi,
parfois, j'entendais mal parce que tout simplement, t'es disposé d'une façon qui fait qu'en extérieur, en plus, c'est pas toujours simple d'entendre tout.
Même au deuxième rang, c'est vrai que moi, j'ai la fameuse anosole.
Oui, l'enfant ouais, prend Rosita dans ses bras.
Ça aurait été plus judicieux, je pense, de mettre tous les bancs tout en arc de cercle, en fait, autour de la scène.
Par exemple,
plutôt que les mettre,
il y avait moyen d'organiser une disposition.
Quitte à gagner un peu de perspective. Ouais, je vous rejoins sur ces critiques-là. À 18h, ça aurait été super.
Voilà, il n'y a quand même pas que des critiques, il y a aussi quelques bonnes idées de mise en scène, je trouve quand même. J'ai envie qu'on vienne dessus pour les mettre en avant. Tu parlais des mouvements de gestuels un peu chorégraphiés, on peut quasiment parler de danse, effectivement. Un avis là-dessus, Maëlys ?
Moi, je crois que c'était très chorégraphié, un peu façon flamenco. Et ça faisait très espagnol, et moi, je marchais à fond.
Là, ce que j'ai aimé aussi, le fait qu'on représente un temps très long en une heure, si j'ai bien compris, l'intrigue, elle s'étale sur
plusieurs années.
20 ans
tu es censée avoir lu le livret et comprendre, Mathilde.
Non, en tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai eu l'impression que ces mouvements chorégraphiés pouvaient justement remplacer des longues périodes de temps. J'ai eu l'impression par moment que, plutôt que de nous embêter avec... Et là, ils vivent cette histoire un peu complexe. On voit ce moment où il fait tourner Rosita sur elle-même. Moi, j'ai cru voir quelques mois, quelques semaines se dérouler avec ce mouvement de « je t'aime moi non plus » exprimé par ces rondes qu'il fait faire. Peut-être encore une fois que je surinterprète, je sais pas bien. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Et je trouve que ça se prêtait très bien à la chronologie de l'intrigue.
Ça faisait des petites parenthèses un peu silencieuses aussi. Je trouvais ça intéressant.
D'accord. Alors, un autre élément qui faisait signifier le passage du temps aussi, j'ai trouvé les changements de costume de Rosita, ouais. qui commence avec une jupe rouge flamboyante, comme une magnifique rose rouge. Ensuite, il la retire. Alors, elle a un nouveau jupon, mais qui est cette fois d'un rose plus pâle. Et elle le retire encore après. Et cette fois, elle est dans une espèce de grande robe blanche qui fait presque penser un peu à une robe de chambre de fou dans un asile, en fait.
Une camisole.
Une camisole, quelque chose de grand, de lâche, qui la met pas du tout en valeur, comme son corps était mis en valeur dans le premier costume, qui était très ajusté, qui laissait très sa taille, n'est-ce pas, Mathilde ? On voyait bien le corps de l'actrice, n'est-ce pas ?
Là, tu rejoins encore une fois mes critiques sur la visibilité de la scène, parce que tu viens de m'apprendre. Il y a eu un changement de costume que je n'ai simplement pas vu. Voilà, donc... encore une fois, il y a des aspects très visuels qui étaient très intéressants que j'ai ratés, du coup. Moi, j'ai vu un jupon, la camisole et le grand châle. J'ai juste vu ça, donc...
D'accord, bon. Alors, donc, du coup, tu n'as rien à en dire.
Non. J'ai apprécié ces changements de costume. Encore une fois, il faut nous donner les possibilités de les voir.
Moi, j'ai bien aimé. C'était... Enfin, je trouvais ça avait du sens, en fait.
Oui,
je trouve
que penser un peu.
Ça faisait un peu la fleur qui pâlit, voilà. Et, tout est signifiant.
C'est beau. Et alors, on l'évoquait tout à l'heure, la guitare qui accompagne. Ouais. Alors, qui cesse quand même à un moment, le guitariste s'en va, mais. Enfin, moi, de l'angle où j'étais placée, en tout cas, je pouvais le voir, parce que tu avais l'air de dire que la guitare venait de nulle part.
Je le voyais aussi, mais je me mettais à la place des autres.
Alors, cet accompagnement musical, il était judicieux, selon vous ?
Oui. À fond. Moi,
extrêmement judicieux. Il crée une atmosphère, il crée une très belle atmosphère. Il accompagnait très bien les passages chorégraphiés. Et c'est même intéressant le moment où la guitare cesse. C'est intéressant parce que c'est très bien pensé par rapport à l'économie de la pièce. Le moment où dans la pièce, finalement, j'ai un peu l'impression que c'est fini un peu sa vie de jeune fille célibataire, ses amours. Cette ambiance un peu romantique, andalouse, elle cesse avec cette guitare qui cesse. Voilà.
Et moi, je pense qu'elle était nécessaire aussi pour rentrer dedans. Donc c'est bien de l'avoir mis au début, c'est-à-dire qu'on...
Oui, quand on nous emmène vers les bosquets.
Ouais. Qu'on marche, et j'ai l'impression qu'elle nous appelle, cette guitare. C'est ça. On l'entend, mais c'était...
Ah, l'appel de la guitare.
Oui, c'était un moment où j'étais pas encore énervée, j'étais encore très ouverte.
Alors du coup, une petite question de conclusion là encore... la pièce va repasser au Festival Off d'Avignon cet été. Si je vous emmenais au Festival Off d'Avignon la revoir, est-ce que vous y viendrez avec moi, Mathilde ?
Je pense que du coup, ça serait complètement différent, les conditions. Moi. Et dites-moi
C'est dans un jardin.
Dites-moi à quelle sauce je vais être mangée.
Moi, c'est ma compagne. Voilà, c'est ça, c'est ma...
Voilà, moi, il est absolument hors de question. Mais je le dis, hein, vraiment, je tiens à ma vie. Il est hors de question que je revive une pièce dans ces conditions.
D'accord.
D'ailleurs, par contre, je serais vraiment curieuse de la voir dans des meilleures conditions, cette pièce, parce que tu l'as souligné, elle est très bonne par ailleurs. Hein.
En connaissant un petit peu les chaleurs avignonaises à 14h, c'est hors de question aussi que je revive ça. Voilà, dans un jardin.
L'amour de la beauté a des limites.
Mais par contre, voilà, en fin de soirée, enfin en début de soirée, là, quand il y a un petit vent qui se lève et que ça devient hyper agréable, là, vraiment, pourquoi pas.
D'accord, merci à toutes les deux. Merci à mes chroniqueuses du jour, Mathilde, qui a trouvé, grâce à notre partenaire en scène, le plus joli coin des Jardins Descartes. On ne dira pas ce qu'elle compte y faire.
Oh.
Et Maëlys, chroniqueuse impartiale, même quand sa coloc est dans la pièce dont on parle. À la technique, je remercie Clément, le seul régisseur auquel j'impose d'aller voir les pièces. Désolée d'avoir volé 45 minutes de ta vie. Je suis encore désolée, Clément. Chers auditeurs, c'était le 44e numéro d'En Spectateur. Ça fait 2 ans que j'anime cette émission et, une fois de plus, je vous remercie de nous avoir suivis. Aujourd'hui, c'était mon dernier numéro, c'est un peu triste, je ne vous le cache pas. Alors, je voudrais saluer tous ceux que j'ai reçus ici comme chroniqueurs et qui m'ont livré des chroniques drôles, pertinentes, agaçantes, passionnées, toujours sincères. Ces chroniqueurs, ce sont Lola, Charlotte, et puis surtout Caroline, Mathilde, Nicolas, Maëlys, Clément, Adrien, Camille et Thomas. Ce numéro, je le dédie à 2 animateurs dans Spectateur, 2 transhistoriens qui sont d'abord des amis. Je le dédie à Pauline, qui fut un temps la co-animatrice dans Spectateur avec moi. Merci d'avoir été la jeune femme qui m'a donné confiance au tout début et qui m'a appris à faire de la radio. Je le dédie à Thomas aussi. Merci d'avoir été le jeune homme souriant qui, en 2013, cherchait quelqu'un pour reprendre son émission. Car moi, quand je suis arrivée à Transistor, je n'avais pas la moindre idée de ce que je voulais y faire. Et c'est là que j'ai trouvé en Spectateur. Je vous embrasse fort, chers auditeurs. Je vous quitte sur un générique de fin inhabituel, le morceau Nights Out de Métronomie, qui dans mon esprit reste associé à 2 des meilleures pièces qu'il m'a été donné de voir en théâtre Cantor, Massacre en 2014 et It's Coming en 2015. Avec Transistor ou ailleurs, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez jamais de vivre en spectateur.